Merci, bonjour à toutes et à tous. Bonjour les Vendéens, je suis content de vous voir, Marie-Jo et toute l'équipe. Soyez bénis et à toutes aussi, à tous nos bien-aimés. Merci d'être venus. Je sais, il fait frais, il fait froid, il fait ça vente et pourtant vous êtes là. Merci Seigneur. Eh bien, ça fait plaisir. Alors, et donc je suis heureux cette fois-ci d'être pas seul. Je suis venu avec mon épouse. Peut-être pour certains, vous l'avez vu à la rentrée. Voilà, donc Judith est là. Je suis très, très content d'être avec elle aussi aujourd'hui. Amen. Eh bien, Père, c'est dans le nom de ton Fils Jésus que nous venons devant toi. Tu as fait de nous ta demeure par ton esprit. Tu es plus proche que notre respiration. Tu sais toutes choses, rien ne t'impressionne. Tu connais, il y a les moindres détails de nos vies, tu le sais. On n'a rien à t'apprendre, on n'a rien à te signaler. Tu sais tout, mais merci d'ouvrir notre intelligence, d'illuminer les yeux de nos cœurs pour que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à ton appel, quelle est l'infinie grandeur de ta richesse que tu as en réserve pour chacun de nous, pour ce jour. Ouvre nos cœurs, ouvre et illumine les yeux de nos cœurs, Père, dans le nom de Jésus. Et c'est pourquoi j'amène toutes nos pensées qui peuvent être captivées à autre chose, à ton obéissance. Je renverse toute forme de raisonnement, d'auteur, de forteresse, d'imagination qui se dresse contre la connaissance du Christ. Et je déclare liées les puissances des ténèbres. Je les rends sourds, aveugles, muets, sans action. Tous ces démons planqués, je les rends sans force et sans puissance dans la vie de chacune de nos vies et dans tout ce qui nous appartient de près ou de loin. Nous les rendons incapables de s'approcher. Nous les rendons sans force et sans puissance maintenant dans le nom de Jésus. Nous les rendons sourds, nous les rendons aveugles et muets dans le nom puissant de Jésus-Christ et sans action. Et que ce que tu as prévu pour chacune de nos vies cet après-midi, Seigneur, selon la mesure de foi que tu as déterminée dans nos cœurs, que nous recevions et que tu me fais grâce, que tu nous fasses grâce. Seigneur, je compte sur toi. Seigneur, s'ils attendent de moi, ben ils ont tout faux. Nous attendons tous de toi. Cher Saint-Esprit, c'est toi l'enseignant par excellence. Ouvre l'intelligence, ouvre les cœurs, fais saisir ce qui est nécessaire pour la vie des uns et des autres et que personne ne sort les mains vides. Je te remercie. Merci pour les ministères d'anges de Dieu que tu as déployés en notre faveur aussi cet après-midi. Sois loué et adoré. Merci de oindre le restant de ce temps et de oindre ta parole dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, c'est un sujet assez délicat, ça parle sur la maturité. Vous savez, pour exercer l'autorité, il faut la maturité. Que dit la Bible sur la maturité spirituelle qui nous conduit à l'autorité spirituelle? Et souvent, on veut exercer l'autorité sans être mûr. Et donc, que dit la Bible sur ça? Et en tant que chrétien, quel niveau on se trouve? C'est ça qu'on va voir, qu'est-ce que c'est la maturité aujourd'hui du chrétien. Alors, Jésus a parlé deux endroits qui m'a toujours choqué. C'est dans Matthieu chapitre 5, vous trouvez, Matthieu chapitre 5, verset 48. Voilà ce qu'il nous dit. Peut-être on peut le lire un peu plus haut. On va commencer au verset 43 et on va le lire jusqu'au verset 48. Mais c'est au verset 48 que nous avons la clé. Voilà ce qu'il nous dit. Matthieu chapitre 5, verset 43. « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense mérite vous. Le publicain n'agit-il pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Est-ce qu'on peut être parfait? Si la Bible dit, c'est que c'est possible. Cependant, mais qu'est-ce que ça veut dire ce mot parfait? Et quand on va donc dans la traduction de grec, et on va voir ça. En tout cas, il y a un autre texte encore, c'est deux fois que Jésus parle sur ce principe de la perfection. C'est dans Matthieu chapitre 19, et on va voir au verset 21. Donc, voilà ce qu'il nous dit. Ça parle d'un jeune homme, on va un peu peut-être lire son histoire. Et Jésus répondit, on va voir au verset 16. Donc, Matthieu chapitre 19, verset 16 à 21, on va lire ça. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, donc Matthieu 19, verset 16. Si on arrive à projeter, ça serait parfait, mais si tu arrives, sinon il n'y a pas de souci. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon ? Un seul est bon. » En fait, la preuve, il n'y a rien de bon en nous. Un seul est bon. Il n'y a que Dieu seul qui est bon, nous dit ce texte. C'est très intéressant. Si tu veux entrer dans la vie, observe le commandement. Lesquels ? Lui dit-il. Et Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, « J'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore ?» Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, c'est incroyable. Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis tu viens et suis-moi. » Amen. Donc, deux fois Jésus parle du mot « parfait ». Est-ce qu'en tant que chrétien, on peut être parfait? En fait, la vraie traduction, c'est pas être parfait, c'est être mûr. Donc, on a dans notre tête le mot français qui est la perfection, mais en fait, c'est pas ça. Parce que personne n'est parfait, personne ne sera parfait. Par contre, ce texte est en train de nous dire, si tu es mûr, si tu as assez de maturité, voilà ce que j'attends de toi, une maturité. Alors, ce qui est intéressant, une des clés qu'il nous montrait, il nous disait que le soleil est pour tout le monde. La pluie aussi est pour tout le monde, pour les méchants comme pour les justes. Donc, quelqu'un qui est mûr ne fera pas la différence. Voyez-vous, déjà, on nous fait comprendre, et il n'y a pas de demi-balance. Hein. Il y a des gens qu'on aime plus, il y en a d'autres qu'on aime moins. Ben, voyez-vous, on a plus d'estime pour les. Eh ben, Dieu dit non, 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 je donne de la pluie pour le méchant comme pour le juste, et ainsi de suite, et ainsi le soleil aussi, pareillement. Mais par contre, nous, on a tendance à réagir en miroir. Vous savez, souvent, c'est à miroir qu'on réagit. Quelqu'un fait la tronche, vous dites, vous lui faites la tronche. Parce que nous, on réagit à miroir. Mais qu'est-ce qu'il lui a pris aujourd'hui? Eh bien, mince. Ben, il ne me dit même pas bonjour. On réagit à miroir. Dieu ne réagit pas comme ça, heureusement. Amen. Dieu ne réagit pas comme ça, que son nom soit béni. Soyez mûrs, aimez ceux qui ne sont pas aimables. Voyez-vous, une des clés de la maturité, c'est aimer ceux qui ne sont pas aimables. Et nous, on n'arrive pas. Et là, c'est là qu'on mesure si on a vraiment la maturité ou si on ne l'est pas. Le Seigneur nous donne comment savoir si on a mûri, si on est assez mûr. Alors, l'évangile commence avec ça. Il nous dit, derrière chaque visage, il y a une histoire. Voyez-vous, nous, on voit juste l'apparence. Mais derrière chaque visage, il y a une souffrance, il y a une douleur. Peut-être la personne, elle est en train de te bouder à cause de ce que toi, tu n'es pour rien. Et pourquoi, toi, tu as réagi en miroir? Parce qu'elle réagit comme avec tes yeux humains. Et Dieu veut que tu ailles plus loin. C'est comme un jour, quand je lui ai dit, je répète souvent ça, j'étais en train de prier en disant, Seigneur, change mon cœur pour telle personne, change mon cœur, parce que, vous savez, des fois, on juge les gens, on a du cœur, mais vous savez, en colère sur les uns et les autres. Mais j'ai dit, Seigneur, change mon cœur. Et le Seigneur m'arrête, et il me dit, ne me demande pas que je change ton cœur. Demande-moi que je te donne mon cœur pour lui. Parce que le cœur de Dieu voit autrement chaque personne. Si on n'a pas son cœur, on ne voit pas les gens comme lui les voit. Et c'est pourquoi souvent on boude des gens. C'est pour ça qu'on réagit face à des gens, parce qu'on n'a pas le cœur de Dieu pour les gens. Alors, il faut qu'on change notre façon de prier, notre façon de s'approcher de Dieu. Donne-moi ton cœur pour telle situation. Je ne sais pas comment répondre. Je ne sais pas comment voir, comment avoir la réponse pour telle ou telle chose. Amen. Aimer ceux qui ne sont pas aimables, c'est être parfait avant toute chose. Amen. Aime ceux qui ne sont pas aimables. Aimable. Alors, la maturité a des niveaux différents. Dans le monde, on dit par exemple, une banane verte, elle est amère, parce qu'elle n'est pas mûre. On ne mange pas une banane verte. Pourtant, quand elle est mûre, elle est succulente. N'est-ce pas? Un fromage fait. Comme disait mon ami, tu le jettes sur la porte, elle colle et ça dégouline. Et bien, elle est mûre. Amen. Le fromage est mûr. On a envie de manger quelque chose qui est mûr. Donc le chrétien, c'est pareil. Quand un chrétien n'est pas mûr, il est amer. Il est immangeable. Et nous, on le voit avec nos disant, mais il est chrétien. Mais comment il peut réagir comme ça? Dis plutôt, c'est un chrétien pas mûr. Amen. Au lieu de réagir, au lieu d'avoir une réaction différente, c'est un chrétien encore pas mûr. Alléluia. Donc, un chrétien mûr. Oh, on a envie d'être avec des personnes mûres. On sait, on ne se sent pas jugé avec une personne qui est mûre. Et on ne se sent pas accusé quand on est avec elle parce qu'on sait qu'elle a un regard autre. Malgré vos défauts, malgré vos manquements, Jésus veut une chose, c'est qu'on ressemble à Jésus. Jésus ne jugeait personne. C'est pour ça, les gens ne se sentaient pas jugés quand ils étaient avec Jésus. Jésus aimait. Vous savez, quand il a amené cette femme pour la lapider, Jésus, il n'a pas lancé un autre jugement sur elle. Le jugement des autres était assez suffisant. Pourquoi ajouter un autre jugement? Il dit alors parmi vous, celui qui n'a jamais fait une erreur, ben qu'il lui jette une pierre. Et quand ils ont vu que tous avaient quelque chose, eh ben ils sont partis. Jésus lui dit à cette femme, moi non plus, je ne te juge pas. Va et ne pêche plus. Waouh! Voyez-vous, c'est ça ce que Dieu veut construire dans nos vies. Mais ce n'est pas par notre effort qu'on arrivera à ça. Donc on viendra à comment rentrer dans cette dimension, comment Dieu fait à l'intérieur de nous et rentrer dans cette dimension de la maturité avec lui. Alors, donc, la maturité, c'est apprendre à aimer Dieu de tout son cœur, mais aussi apprendre à aimer son prochain comme soi-même. C'est étonnant. Il dit, toutes les lois sont résumées sur ces deux lois. Tu aimes ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toutes tes pensées. Et aussi, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas aimer l'autre. Donc, la vraie maturité commence déjà à s'aimer. Amen. À accepter le choix de Dieu, comment il t'a créé, comment il t'a mis sur cette terre. Tu peux être grand, petit, tu peux être gros, maigre, tu peux être noir, blanc, mais est-ce que tu aimes ce que Dieu a fait comme choix en te créant comme tu es? Et là, déjà, le commencement de la maturité, c'est savoir accepter le choix de Dieu dans ta vie. Il a choisi ton temps. Il a choisi l'époque où tu devais naître, il a choisi ta famille, il a choisi ton pays, il a choisi ta couleur, il a tout choisi. Et la maturité, c'est ça. J'accepte ton choix. Certains, ils se gonflent comme s'ils étaient s'auto-créés. Ils se croient les meilleurs que les autres. Ils veulent écraser les autres. Ils veulent cracher sur les autres. Il y en a d'autres qui regrettent d'être créés comme ça. Mais pourquoi tu m'as créé comme ça? Ils sont en train de pleurnicher. C'est de l'orgueil pur. C'est manque de maturité. Quelqu'un qui rentre dans la dimension de la maturité, déjà, il commence par aimer ce qu'il est. Par accepter le choix de Dieu dans sa vie. Et ça, c'est le commencement de la maturité. Si tu n'acceptes pas le choix de ta vie, comment Dieu t'a créé, eh bien, ça va être très difficile. Mais donc, on va venir plus tard. Alors, nous parlons de la maturité, mais Il y a aussi, dans le monde, on dit la maturité physique. Vous savez, la maturité physique, c'est de 15 à 21 ans. C'est là où il y a une croissance physique. L'enfant grandit, on voit, de 0 ans jusqu'à 21 ans. Mais il y a une maturité physique qui commence à partir de l'âge de 15 ans. De 15 à 21 ans, c'est la maturité physique. Mais aussi, il y a la maturité sexuelle. Vous savez, dans notre société, la maturité sexuelle, elle est de, pour une fille, c'est de 15 ans et 30 mois, c'est en France, c'est la loi française, ça, hein. De 15 ans à 3 mois, pour le garçon, c'est 18 ans. C'est la maturité sexuelle. Tout ce qui est avant ça, c'est la loi française. Mais je peux rien vous dire de plus, mais en tout cas, à partir de 15 ans et 3 mois pour une fille et de 18 ans pour un garçon, c'est la loi française qui parle sur la maturité pour le mariage dans la loi française. Donc la loi française dans le mariage, elle dit 15 ans et 3 mois, une fille peut se marier. C'est choquant, hein? Mais c'est votre loi, c'est notre loi. Mais voilà. Mais en tout cas, c'est, on voit dans notre société, il y a ça. Dans ce qu'on appelle la maturité sociale, c'est à partir de l'âge de 18 ans. Vous savez, vous n'êtes jamais, vous ne pouvez pas voter après 18 ans, avant 18 ans. Vous n'avez pas le droit parce que vous n'êtes pas assez mature pour voter. Aux États-Unis, c'est à partir de 21 ans. Dans la Bible, c'était les soldats n'allaient à guerre, faire la guerre pas avant 21 ans. C'était la maturité sociale de l'époque. Donc, bibliquement, en tout cas, les garçons n'allaient pas en guerre avant 21 ans. Et donc, c'est très intéressant. Les États-Unis ont gardé ce principe de la maturité jusqu'à l'âge de 21 ans. En France, c'est 18 ans. Vous savez, toujours on fait la révolution en France. Mais en tout cas, 18 ans est notre loi sociale au niveau de la maturité qu'on appelle la maturité sociale qu'on regarde. La maturité, par exemple, chrétienne ou spirituelle, qu'on appelle, chez les juifs, ça commence à l'âge de bar mitzvah, de 12 à 13 ans. La bar mitzvah, c'est... Le bar mitzvah, fils du commandement. C'est ça veut dire, bar mitzvah, c'est fils du commandement. Ça veut dire celui qui est responsable et qui répond. Le mot responsable, c'est répondre à Dieu de mes actes, de mes pensées et de mes projets. C'est ça. Donc, un garçon ou une fille qui est à l'âge de 12-13 ans, elle répond spirituellement. Dieu la considère responsable de ses actes, responsable de ses pensées et de ses projets spirituellement. Par contre, physiquement, 21 ans, c'est incroyable, hein? Voyez-vous comment Dieu agit, c'est différent. Mais au niveau spirituel, Dieu demande ça. Un jour, quelqu'un m'a posé la question, quand un enfant meurt, où est-ce qu'il va? Je lui dis, bibliquement, en tout cas, tout ce qui est en dessous de 12 ans, 13 ans, il va directement auprès de son roi. C'est différent, voyez-vous? À partir de 13 ans, par contre, il y a des questions. Il va être responsable de ses actes. Aujourd'hui, en France, j'ai vu des jeunes qui sont violents et qui attaquent leurs profs et tout ce que vous voulez. Et donc, l'État, qu'est-ce qu'il dit? Oh, c'est un enfant, donc on corrige dans un... Mais bibliquement, ben, il est questionné de ses actes dans le domaine spirituel. OK? Donc, c'est un peu différent comment la Bible voit le domaine spirituel, la bar mitzvah, donc responsable. Le mot responsable veut dire répondre à Dieu de mes actes, de mes pensées et de mes projets. Au XIIIe siècle, les seigneurs qui payaient à leurs souverains ces impôts, répondez. C'est là qu'on a pondu ce mot responsable. Donc, il répond devant lui de ce qu'il a fait ou de ce qu'il doit à son suzerain. OK? Donc, c'est ça le mot responsable. Donc, l'homme qui répond, Adam et Ève, c'était l'homme qui devait répondre à la place d'Ève. Vous n'avez pas remarqué? Dieu n'est pas venu voir Ève. Il est venu voir qui? Adam. Il répondait, il était responsable de celui qui avait reçu toutes les choses qu'il fallait faire, qu'il ne fallait pas faire. Et le diable, dans ses ruses, il est allé voir la femme. C'est avec elle qu'il a discuté. Et Dieu est venu voir le responsable. C'était Adam. Il a dit, où es-tu ? Ah ben, j'ai péché, je me suis caché. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? C'est pas moi, c'est à cause de ma femme. Voyez-vous, il commence à accuser l'autre et dire c'était lui qui devait répondre à cela. Dans l'aspect juif, répondre devant la parole, répondre dans le service, le lévite ne devait jamais lévite avant 30 ans. Par exemple, Jésus, il est devenu rabbin à l'âge de 30 ans. C'est dans le principe juif. Donc, jamais on exerçait le sacerdoce avant 30 ans. Donc, Jésus, dans tout le créateur du ciel et de la terre, lui-même, donc, il était obligé d'attendre l'âge de 30 ans, légal, qui lui permet de devenir rabbin. OK ? En plus, ces rabbins, ils servaient jusqu'à l'âge de 50 ans. Ça veut dire 20 ans de service. Après, il était à la retraite. Nous, la retraite, c'est à 60, 70 ans. Mais chez les rabbins, donc, à l'âge de 50 ans, il était obligé de quitter et de donner. Et lui, sa place devenait quoi ? Un conseiller, un père. C'est pour ça que vous voyez tout le temps le changement dans les principes de rabbinat. Donc, de 30 à 50 ans, il servait. Après 50 ans, il devenait conseiller. Il n'était pas exclu, il devenait. Donc, c'est ce qu'on appelle « allons voir les pères ». Allons voir, voyez-vous, les pères qui se mettaient autour. Donc, ils deviennent des conseillers qui étaient autour. Mais le service du rabbinat était cadré entre 30 et 50 ans. Voilà, ce sont des choses, donc 20 ans de service. Jésus, à 30 ans, âge de la maturité spirituelle pour devenir rabbin. Alors, je vois que des fois, je vois des peintures avec ses disciples qui étaient aussi vieux que lui. Je dis, mais vraiment, il y a une erreur, parce que lui, pour qu'il devienne rabbin, parce que dans le concept juif, il y a trois écoles. Ce qu'on appelle l'école de bar mitzvah, donc de 0 à 13 ans. Après, il y avait ce qu'on appelait l'école de talmudique, donc qu'on apprenait de toutes les paroles qu'on donnait. Donc, il y avait une école talmudique. Après, il y avait ce qu'on appelle l'école rabbinique. Donc, il y avait troisième école. Quand Jésus est devenu rabbin, il pioche ses disciples dans le plus bas. Ça veut dire dans l'école talmudique. Donc, ça veut dire tous les disciples de Jésus, ils étaient tout jeunes. Nous, on se trompe, on croit qu'ils étaient plus vieux que lui. On a mis des fresques avec, ils étaient chauves, et plus barbus que lui. Et bien, on a pris des copains. C'est pas des copains qui étaient là. Une des preuves, comment il s'appelle, Pierre, il avait 21 ans. Hein. C'est tout. Moi, je pense, les gens qui étaient là, tous les disciples qui étaient autour de lui, ils étaient dans le cadre, ce qu'on appelle, de bar mitzvah, le début de bar mitzvah et l'école talmudique. Donc, le bar mitzvah, c'est de 0 à 13 ans. De 13 ans à 21 ans, donc, on avait... De 13 ans à 21 ans, il y avait l'école talmudique. De 21 ans à 30 ans, il y a l'école rabbinique. Voyez-vous ? Donc, ils ne pouvaient pas être dans l'école rabbinique, ces jeunes. C'est impossible. Il faut voir la tradition, comment il était. La maturité, elle était bien claire dans ce qu'on faisait à cette époque. C'est pour ça, d'ailleurs, une femme, elle vient et lui dit, « Seigneur, je veux un que de mes fils soit à ta droite, l'autre à ta gauche. » Depuis quand, s'ils étaient si barbus et si chauves, une mère vient discuter pour eux? C'était que c'est des jeunes. Voyez-vous? C'était des jeunes qui étaient là autour de Jésus. Donc, il faut mettre les choses au clair. Regardez, comment ça se fait que tous les disciples fuyaient? Le seul qui n'a pas fui et qui était avec les femmes jusqu'à la croix, c'était qui? Jean. La Bible nous dit que Jean se mettait sur la poitrine de Jésus. Vous avez vu un chauve là qui se met sur la poitrine de Jésus? C'est pour ça les gens mélangeaient dans leur tête en disant « Mais c'est un peu bizarre, c'est un peu homosexuel. » Voyez-vous, toutes les histoires que les gens ont inventées parce qu'ils n'ont pas compris comment ça fonctionne. Jean étant le plus jeune, le plus petit, même les soldats romains ne l'ont pas remarqué. Voyez-vous? Donc il faut être dans le concept de l'époque et comprendre comment ça fonctionne. Et la maturité spirituelle, la maturité physique, la maturité sociale étaient des niveaux différents, la manière dont les choses étaient exposées. Donc quand on comprend ça, ça calme notre conscience. On sait comment ça va fonctionner. Et c'est tellement important de comprendre tout ça. Alors, mais... Dans Matthieu, chapitre 19, verset 21, il lui dit, si tu veux être parfait, donc, abandonne l'argent, parce que c'était un jeune homme qui est venu voir à Jésus, il lui dit, ouais, mais j'ai tout fait, mais si tu veux être parfait, ben, abandonne tout et suis-moi. Ça veut dire, il était attaché à l'argent. Donc, chaque niveau de maturité est testé. Il n'y a pas On ne monte pas d'une école à une autre école sans être testé. C'est pourquoi nous, les chrétiens, on ne comprend pas que la maturité est étroitement liée au test. Attention, je fais la différence entre le test et la tentation. C'est deux choses différentes. Le test, c'est des épreuves par lesquelles tu passes, que Dieu est là et en train de te tester. Alors, tous les gens qui ont voulu être parfaits, ou bien des gens mûrs dans le Seigneur avec Dieu, ils ont été testés. Et à un moment, à un autre, les gens étaient prêts à perdre tout pour lui, pour être mature. Ok? Alors ma question c'est, quel test passes-tu aujourd'hui? Tu es dans quel niveau de test actuellement? Alors, je vais vous donner quelques épreuves de test. Dans le test, Dieu nous attend en lui disant, est-ce que tu m'aimes pour abandonner ça pour moi? Et le diable de l'autre côté va te dire, ne lâche pas prise. Ne lâche pas prise. Attends, tu vas perdre beaucoup. Ça, c'est la tentation. Voyez-vous de l'autre côté, mais je viendrai tout à l'heure. Alors, Abraham, par exemple, il a été testé. Il a été testé et il était prêt à perdre son fils. Le test de perdre quelque chose qu'il aimait le plus. Donc la maturité est souvent testée dans les choses si tu es prêt à perdre. Tout à la fois en te regardant dans les yeux, en te disant, alors, tu lâches ou tu lâches pas? Est-ce que tu m'aimes plus que ça ou ton amour pour ça est plus fort? Voyez-vous? Donc, on passe par des tests. Isaac a perdu son fils pendant 14 ans. Jacob a fui, voyez-vous, parce que son propre frère le poursuivait partout. Et il était obligé de fuir pendant 14 ans. Il était absent de la maison, Jacob. Et le père, donc, il était là. Il a été testé dans ce manque de son fils. Plus tard, Jacob a perdu son fils Joseph, 30 ans. 30 ans, il était même persuadé qu'il était mort. Et mais merci Seigneur, il le rencontre, il était tellement touché. Eh bien, Dieu a amené à répondre. Pour Abraham, pareil, quand il est venu essayer de sacrifier son fils, il lui dit, j'ai vu que ta maturité. J'ai vu. Écoute, tiens, le bélier, laisse ton fils. Waouh, il a passé le test. Pourtant, il avait échoué avant. Il a été testé parce que quand Dieu lui a dit, je te donnerai un fils, il est parti voir sa femme en lui disant, Dieu va nous donner un fils. Il lui dit, à mon âge, mais tu rigoles ou quoi? Je suis vieille, t'as pas vu là? Et elle a commencé à lui dire, tellement il lui a dit ça, ben, ça l'a découragé. Au point qu'elle lui dit, écoute, Agar était plus jeune que moi. Peut-être c'est par elle que tu auras le fils du promesse. Voyez-vous? Mais cette fois-ci, il n'a pas parlé avec sa femme. Il a été plus sage. Il est allé directement en prenant son fils, en cachette, le fils que la maman tenait tellement, mais il est parti avec le fils et il a passé le test. D'ailleurs, le texte, les Juifs disent, la mort de Sarah a été précipitée quand elle a appris que son père l'a amenée pour le sacrifier. Elle était tellement tourmentée et qu'elle a perdu sa vie juste après. D'ailleurs, dans le texte biblique, si vous le lisez, cette histoire est très étonnante parce que c'est là que la maman, donc Sarah, meurt quelque temps plus tard. Donc il a bien fait de ne l'avoir pas dit parce que si Abraham n'avait pas passé le test, on n'aurait pas le salut aujourd'hui. C'est pour ça qu'on appelle Abraham le père de la foi. Amen. C'est par la foi que nous avons été sauvés. C'est celui qui a été le modèle de la foi. Et c'est ça qui a amené donc, le test. Il a passé, il a découvert un secret pour toute l'humanité. Il a sorti quelque chose du cœur de Dieu, la foi. Amen. Il est sorti avec quelque chose. Et aujourd'hui, béni soit-il le Seigneur, grâce à cet homme qui a été testé et qui a passé le test, on a eu le secret de la foi et nous sommes attachés au Seigneur grâce à la foi en notre Dieu. Que le nom du roi soit béni. Amen, amen. Donc, c'est très intéressant de comprendre. Et ces secrets-là, et ces tests par lesquels on peut passer, il y a des tests, par exemple, dans l'église, les gens qui passent des tests dans l'église, ils sont exaucés pendant un temps, et d'un seul coup, l'exaucement s'arrête. Ces gens, ils disent, pourtant, je n'ai pas changé, ma manière de prier est pareille, je donne ma dîme comme il faut, je fais tout, mais Dieu, on dirait qu'il ne m'écoute plus. Le non-exaucement. Vous savez, des fois, il y a des tests du non-exaucement. Et quand on n'est pas exaucé, est-ce que Dieu reste Dieu? Voyez-vous ce que je veux dire? Et si Dieu reste Dieu, donc tu es en train de passer le test. Des fois, nous, une fois qu'on a été béni et on veut que ça continue pas, d'un seul coup, Dieu te dit, et si je te bénis pas, est-ce que je resterai ton Dieu? Le test du non-exaucement. Est-ce que tu as passé cette école du test? Est-ce que ce test a existé dans ta vie? Donc, des fois, on n'est pas exaucé. Nous, combien de fois? Des amis pour qui j'ai prié jusqu'au tombeau, je suis allé crier au Seigneur et pourtant, le Seigneur me disait, va à tel endroit, prie pour lui, et je le ressusciterai. Ben, la honte que je me suis tapé, mais j'étais jusqu'au bout. Et je l'ai fait, la personne n'est pas venue. Le test du non-exaucement. Des amis proches que j'avais, qui sont morts par le cancer, qui sont morts par des situations que je n'arrive pas à comprendre. Le test du non-exaucement. Vous savez? Ce sont des tests par lesquels Dieu peut nous faire passer. Et on peut être déçu, on peut être malheureux, mais Dieu mesure et met en place la maturité dans ta vie quand ces choses ne se passent pas. Amen. Le test aussi de la perte de quelque chose, de quelqu'un que tu aimes. Des fois, il y a des tests de quelqu'un qu'on a aimé de tout notre cœur, qu'on voulait qu'elle soit avec nous et qu'elle n'est pas. Le test de perdre quelqu'un. Mais Dieu est Dieu. S'il l'a pris, il a ses raisons, comme moi, dont la raison ne comprend pas. C'est pour ça que la Bible, les gens disent, l'amour a ses raisons dont la raison ne comprend pas. Amen. L'amour, c'est Dieu lui-même. La Bible nous dit, Dieu est amour. L'amour a ses raisons que le cœur de l'homme, la raison ne comprend pas. Et nous, on veut raisonner pour comprendre des choses, malheureusement. Le test du deuil. Des fois, il y a des choses que Dieu a dit, fais deuil à cette histoire, fais deuil à ce choix, fais deuil à cette relation, fais deuil à... Voyez-vous, il y a des tests de deuil. Et on ne veut pas quitter, on met tout, on s'accroche de toutes nos forces. Il dit, le test de deuil, il y a plein de choses qu'on a fait deuil, qu'on a dit, bon, allez, je barre ça, allez, je me débarrasse. Mais au fond, on ne se débarrasse pas, on est tellement accroché à ça. C'est malheureux. Donc, ce test de deuil existe dans la vie du chrétien. Et Dieu te regarde en disant, es-tu prêt à accepter ce test? Test de la peur, test de la peur de la persécution. Vous savez, le test de la peur, moi j'imagine nos frères au Nigeria, nos frères en Iran, nos frères en Chine. Mais quel test! tristesse de la peur, au point de dire, mais pourquoi je continue à vivre là-dedans? Est-ce que tu supporterais le test de cette peur? Voyez-vous ce que je veux dire? Des fois, il y a des tests que nous n'en comprenons pas. C'est vrai que le diable pousse pour mettre des choses, pour qu'on lâche le morceau. Mais est-ce que tu es prêt à tenir ferme, malgré la peur qui te tourmente à l'intérieur? Aïe, 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 hein, le test de la Syrie, de la persécution. Le test de la solitude. Oh, il y a les tests de la solitude. Des fois, Dieu nous laisse seuls, tout en disant, je ne suis pas avec toi. Est-ce que je ne suis pas avec toi? Et nous, on peut râler en disant, ouais, je suis seul, oh là, c'est fini, c'est quoi la vie, Seigneur, où es-tu? Amen. Le test de la solitude. Dieu peut nous tester dans cette solitude. Ah là là. Jésus à la croix, il était seul. Ses disciples l'ont abandonné. Il a passé tous les tests pour nous. Le test de la trahison, voyez-vous? Des fois, il y a des gens que vous avez misé tellement, que vous avez cru de tout votre cœur sur eux, et ces gens vous lâchent, et vous dites, mais jamais plus je ferai confiance à une autre personne. Le test de la trahison, Jésus l'a vécu. Le test de la solitude, Jésus l'a vécu. Le test du deuil, un de ses disciples est mort, vous vous rendez compte? Il s'est suicidé, vous croyez que Jésus riait? Non, il était triste, parce qu'il a perdu un sur qui il avait misé, il avait mis tout, il avait prié pendant 40 jours pour sélectionner les 12. Il faisait partie des 12 quand Judas est mort. Vous croyez que Jésus était heureux? Non, le deuil, le test du deuil, il l'a vécu, lui, à notre place, pour nous dire, tout ce que tu vis, moi aussi je l'ai vécu. Amen. Donc, toute forme de test, prêt à perdre sa vie. Même le Père, voyez-vous, quand il a envoyé Jésus, c'était une démonstration de test. Je suis prêt à perdre mon fils à cause de l'amour que j'ai pour vous. C'est un test, qui est une démonstration de test que Dieu nous a montré, combien son amour est grand pour nous. Alors, ces tests-là dans lesquels on peut passer, donc le test de la solitude, le test de la peur, à la croix, je suis sûr, Jésus, la Bible nous dit qu'il a eu des angoisses, du grumeau de sang qui coulait de ses fronts, c'était l'angoisse, vous croyez? Parce qu'il était pleinement homme aussi. Nous, on le voit comme pleinement Dieu seulement, mais il était volontairement homme. Justement, pour te montrer que tous ces tests, il les a accomplis, il les a pleinement affranchis, il les a pleinement accomplis et mangé tout cela pour que toi, tu sois vainqueur, tu sois libre. Et qu'aujourd'hui, quand tu passes par un tel test, il te dit, eh bien moi aussi je suis passé par là. Sinon, il serait injuste de te dire, aime ton ennemi, tout en étant sur son trône en disant, aime ton ennemi, c'est facile. Ça. Non, il a aimé ses ennemis. Quand ils étaient en train de le crucifier, qu'est-ce qu'il dit? Pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Voyez-vous, le test même de la persécution, il l'a vécu. Et toi, où est-ce que tu en es? Ah, mais le test de la trahison. Alors, est-ce que si tu n'as pas ce que tu veux, est-ce qu'il est encore Dieu pour toi? Voyez-vous, des fois, on demande tellement, et on n'est pas exaucé. Est-ce que Dieu reste Dieu pour toi toujours? Est-ce que, si tu es trahi, est-ce que Jésus est toujours Dieu pour toi? Si tu es seul, est-ce que Dieu est toujours Dieu pour toi? Amen. Donc, dans Colossiens chapitre 1, verset 28. On va lire ce texte, il est magnifique ce texte. Colossiens chapitre 1, verset 28. Colossiens chapitre 1, verset 28. C'est incroyablement intéressant. Colossiens. C'est lui que nous annonçons en avertissant et instruisant toute personne en toute sagesse, afin de présenter à Dieu toute personne devenue adulte. Voyez-vous? Toute personne devenue quoi? Mûre, adulte en Jésus-Christ. Continue. C'est à cela, merci. C'est à cela que je travaille en combattant avec sa force. Amen, amen, amen. De Pierre, chapitre 1, toujours. Il nous dit au verset 5, on va venir sur les comment la maturité se met en place. Donc on va voir ça. Pour cette raison même, faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi, donc premier, gardez le mot foi, la qualité morale. Bon, la qualité morale, moi je l'ai marqué différemment. La qualité morale, c'est la vertu, disent dans certains textes, c'est marqué la vertu. Et donc, cette qualité morale, à la qualité morale, la connaissance. De la connaissance, la maîtrise de soi. Donc, quand quelqu'un mature, voilà les étapes dans lesquelles on rentre. Donc, à la connaissance, à la maîtrise de soi. De la maîtrise de soi, à la persévérance. De la persévérance à la piété, de la piété à l'amitié fraternelle, et à l'amitié fraternelle, l'amour. Donc, il y a des étapes qu'on doit suivre. Mais qu'est-ce que ça veut dire? La foi, c'est étonnant. La foi, vous le trouvez de deux endroits. Dans les dons, c'est un don. Et à la foi, c'est du fruit, le fruit de l'esprit. C'est don de l'esprit, vous trouvez dans le don de l'esprit, il nous dit la foi, le don de foi, le don de guérison, le don de prophétie, le don de parler en langue, le don d'interprétation de parler en langue, le don de diversité de parler en langue, le don de miracle, le don de prophétie, le don de connaissance, de sagesse. Il nous donne tous ces dons, ok? Mais la foi fait partie du don. Et c'est étonnant, c'est la seule chose qui se répète dans le fruit. Quand vous venez dans le fruit de l'esprit, il dit, le fruit de l'esprit, c'est dans Galates, il dit la foi, la joie, la paix, la maîtrise de soi, l'amour, la bonté, la fidélité. Et la fidélité, c'est la foi. Donc, la Bible nous parle deux fois, il répète, dans les dons en tant que don et dans le fruit en tant que fruit. Le don, c'est quelque chose qui est gratuit. Le fruit, par contre, c'est quelque chose qui pousse. Tout à l'heure, je vous ai parlé des fruits. J'ai dit une banane qui n'est pas mûre, mais pour qu'une banane pousse, ça prend des mois, des années. Ça pousse pas comme ça. C'est pour que si vous plantez, par exemple, un oranger, ça prend 5-6 ans avant que ça donne des oranges. Il n'y a rien à faire. Ça veut dire, le fruit, c'est quelque chose qui pousse. Plus vous l'entretenez, plus ça pousse. Tandis que le don est un cadeau. Alors, tout à l'heure, le principe de la maturité, de l'autorité, on va venir sur ce domaine. Donc, ici, il parle de la foi. C'est la première chose que la Bible nous parle en lui disant, c'est pistis, vous le trouvez en tant que fruit, en grec. Donc, c'est la confiance, hein, c'est ça. Ça fait partie des dons. Tandis que le fruit, donc, le fruit, c'est pistis, c'est confiance qu'on dit, donc ça fait partie de ça. Alors Dieu dit, est-ce que tu as confiance en moi? Est-ce qu'à la fois tu as reçu de ce don? Parce que sans son cadeau, tu n'as pas la foi. Tout à l'heure, si vous avez fait attention, quand je priais, j'ai dit, tu donnes à chacun selon les mesures de foi. Ça veut dire, ma foi en moi et la foi que votre pasteur a, la foi que votre deuxième pasteur a, c'est pas la même chose. On a des fois différents. C'est chacun, ce que notre bien-aimé Jean, qu'il a, on n'a pas la même foi. Parce que la foi, c'est un don que Dieu donne. Mais par contre, il y a une autre forme de foi qui grandit par la connaissance que vous avez de lui. La dernière fois, vous rappelez, j'ai parlé sur la connaissance de Dieu. Connaître Dieu, ce n'est pas la connaissance de Dieu, c'est quoi? C'est que vous connaissez que le Père, hein? La vie éternelle, c'est qu'il le connaisse, toi, le seul vrai Dieu, celui que tu as. C'est ça, c'est connaître de plus en plus comment Dieu fonctionne. Donc, il y a une foi en tant que fruit, il y a une autre foi en tant que don. Et Dieu dispatche des dons Je ne sais pas. Certains, ils ont une grande foi, ce que la Bible appelle la foi de Dieu. Moi, j'ai un ami, c'est étonnant. Un jour, je me rappelle, on avait une très grande conférence. La salle, on n'arrivait pas à payer la somme pour l'allocation de la salle. Oh, tout le monde était en panique. On lui a demandé de monter, de faire une offrande. Franchement, quand il est monté parler de l'offrande, c'est pas ce qu'il a dit que ça a marché. Parce qu'il disait pas des choses, si, ce qu'on pensait, quoi. Il a dit des choses, il a raconté des choses. Il s'est assis, les gens ont donné, on a couvert, il est resté encore de l'argent. Don de foi. Il y a des gens qui ont des dons de foi, c'est incroyable. C'était pas sa prédication, ou ses paroles, ou ses exhortations qui a fait ces choses, mais Dieu a multiplié l'argent qui était venu devant. C'était incroyable. On a vécu ça, de mes propres yeux, j'ai vu ça. Ça, c'est un don de foi. Vous ne pouvez pas inventer, c'est un cadeau de la part de Dieu. Okay? Par contre, le fruit, c'est quelque chose qui se travaille par une relation. Le fruit, la foi en tant que fruit, c'est plus tu connais, plus tu es stable. Ta vie chrétienne n'est pas en dents de scie. Un jour en haut, un autre jour tu boudes, une autre fois tu ris, une autre fois tu es malheureux. Eh bien ça, en dents de scie, parce que ta foi, ta confiance, la connaissance que tu as de ton Dieu n'est pas stable. Et Dieu veut cette maturité, qu'elle soit stable, pour pouvoir te confier de l'autorité. Donc je viendrai tout à l'heure, en deuxième partie, on parlera sur l'autorité. Donc, j'ai quelques minutes encore. Je vais faire vite cette partie, première partie. Donc, après, il y a la vertu. C'est l'essence même morale. Hein, on vient de lire. Faire le mieux possible. Faire bien. Amen. Ce que tu fais parle de ce que tu crois. Vous savez, la vertu, c'est ça. C'est l'excellence morale. Les gens, ils vous voient, ils disent, « Ah ben, lui, il te donne sa parole, il ne bouge pas. » Si tu as dit « je le fais », ben il le fait. Ah ben, tu peux lui faire confiance. Voyez-vous, ce qu'on appelle l'excellence morale. Moi, mon fils, c'était étonnant. Quand il était petit, il était derrière. Il dit « papa, je veux McDo, je veux McDo ». Je lui dis « tant que je lui dis rien, il continue à revendiquer ». Et comme pour être tranquille, je lui dis « d'accord, je vais t'acheter ». Il se calme. Il est tranquille. Il sait que papa donne sa parole. Il va le faire quoi que ça lui coûte. Voyez-vous, créer en lui cette vertu qui est donner parole, garder parole. Que tes façons d'être amènent la paix quand les gens sont avec toi. Ah, lui, c'est un homme de parole. Ah, lui, c'est un homme fidèle. Voyez-vous ? D'ailleurs, un des noms de Jésus, c'est quoi ? Fidèle et véritable. Excellent. Moi, c'est une des choses que je rêve, que je sois trouvé fidèle. Qu'il me dit, entre dans la maison de ton père, Tsef, tu as été fidèle. Amen. Et c'est la vertu que j'aime vraiment de tout mon cœur, être fidèle. Que les gens soient haut, bas, pas bien, pas mal, qu'importe, je ne changerai pas de ne pas changer par l'aide de Dieu, par le Saint-Esprit qui habite en moi, pour avoir cette vertu de fidélité. Voyez-vous, c'est ça. Ce que Dieu veut, c'est quoi ? C'est ça, c'est ce que j'appelle l'excellence morale. Quand il vous voit, il dit « oui, lui, c'est bon ». Il te dit qu'il le fait, ben il le fait. Il te dit qu'il vient, ben il vient. Il te dit qu'il ne veut pas, il ne veut pas. Ah ben, il t'a dit ça, laisse tomber. OK ? Et ça, c'est un des niveaux qu'on appelle quand quelqu'un est mature. La maturité. Après, connaissance ou la science. Un savoir-faire, un savoir-être. Vous savez, quand la connaissance, c'est quoi? Tu sais de quoi tu parles. Ce n'est pas juste une théorie que tu communiques aux gens. Des fois, nos prédications, ce sont des choses qu'on a compris qu'on prêche. C'est malheureux. Si ce qu'on a compris, on l'a pratiqué, quand on le prêche, ça fait esprit et vie. Les gens le vivent parce que c'est une réalité que tu racontes. Ce ne sont pas des théories. C'est à ta portée. Amen, amen. Si c'est à ta portée, il peut être à la portée de l'autre. Donc, C'est ça le secret de la maturité, c'est la connaissance de la science. Savoir faire, savoir être, une expérience dans la volonté de Dieu. Amen. Tu connais le plan de Dieu et la volonté de Dieu. Tu l'as expérimenté et tu communiques ce que tu as expérimenté. Romains 12, verset 2, discerne ce qui est bon. Fais-moi connaître ta volonté avec toute sagesse et intelligence spirituelle. Amen. Parce qu'on peut connaître la volonté de Dieu et ne pas la gérer avec sagesse, ni la gérer avec intelligence. La sagesse, ça veut dire la pensée est là. L'intelligence, c'est la manière dont tu transformes ce que tu viens de recevoir, la mettre en pratique sur cette planète Terre. Amen, amen. Donc, la connaissance. Quatrième, il dit maîtrise de soi ou la tempérance. La maîtrise de soi, c'est quoi? Tu sais que tes pensées t'appartiennent? Il y a des gens, leurs pensées vagabondent tout le temps. Ils ne parlent pas à leurs pensées. Moi, j'amène toutes mes pensées qui peuvent être captivées à autre chose. Même dans ma prière, souvent, vous m'entendez dire, j'amène toutes mes pensées captivées à autre chose, à l'obéissance du Christ. Je renverse une forme de raisonnement, d'auteur, de forteresse qui se dresse. Ta pensée t'appartient, mon ami. Tu peux lui dire non, tu ne vagabonderas pas, tu n'entretiendras pas telle pensée. Ton imagination t'appartient. Tu as la capacité de dire à ton imagination, non, ces pensées, cette image que je laisse pulluler dans ma tête, je ne suis pas esclave à ça, dans ma tête. Ok? C'est parler, à être le maître. Tes émotions t'appartiennent. Il y a des gens, ils sont esclaves de leurs émotions. Quelque chose arrive, ils deviennent en colère, ils pètent les plombs. Et ces mêmes personnes, ils vont être gentils avec vous. Vous dites, mais je ne comprends pas. Tout à l'heure, tu pétais les plombs. Et aujourd'hui, maintenant, tout de suite, tu me souris. C'est quoi? C'est immaturité. Et Dieu veut cette maturité que tu es un homme, tu es calme, tu es tranquille, parce que tu sais, tu as la maîtrise de soi. Tu peux maîtriser tes pensées. Tu crois que moi, je n'ai pas des idées de colère? J'en ai. Mais j'ai dit, tu n'es pas esclave de la colère. Calme-toi, Tef. Amen. Je me parle. C'est pour ça, David disait ceci. J'ai imposé le calme et le silence à mon âme. Amen. Tu peux te parler à toi-même. Tu peux te parler à tes émotions. Tu peux dire, mais pourquoi je me comporterais comme ça, comme un gosse? Un gosse qui veut avoir une réponse parce qu'il tape les pieds. Oh, maman, tu me donnes pas, il tape les pieds, il pleure. Ben, les gens, à 50 ans, à 60 ans, ils tapent les pieds, la même chose. J'ai dit, mais t'as pas grandi, mon ami. La maturité, c'est de sortir de l'enfance. La maîtrise de soi, ta pensée t'appartient, tes émotions t'appartiennent. Amen. Ton imagination t'appartient, tes paroles t'appartiennent. Tu peux dire et ne pas dire, tu as le choix. C'est une maturité de ne pas parler à tort et à travers pour toutes les choses injustes et briser les cœurs des gens. Et après, on le regrette, on mord les doigts. Oh, j'aurais pas dû lui dire comme ça. Combien de fois j'ai fait ces bêtises? Je l'ai fait. Je ne juge personne, je n'accuse personne, je l'ai fait. Quand tu deviens mature, d'un seul coup tu dis, Seigneur, je lui dis ça ou je lui dis pas? Tais-toi, ferme-la, d'accord, Seigneur. Même si ça me démange, je me tais. Amen, amen. Tu maîtrises de ta parole. Maîtrise ta parole parce qu'elle t'appartient. Dieu ne peut pas le faire à ta place. La maîtrise de soi, ce n'est pas juste une idée. C'est à ta portée. Tu es à ta portée. Et cette maturité que le Seigneur veut. Tes pensées t'appartiennent. Tes paroles t'appartiennent. Attention à ma création. Tes émotions t'appartiennent. Ton corps t'appartient. Ah, j'aime, moi, des gâteaux magnifiques comme le forêt noire. La forêt noire. Mais des fois, je dis, Seigneur, là, je ne me maîtrise pas. J'ai envie de le goûter. Eh bien, écoute, ton corps aussi t'appartient. Ton corps a un appétit. Et je n'accuse personne. Je suis responsable de mes actes. Amen. La maturité, c'est au moins tu sais comment tu agis. Et au moins d'être honnête avec toi-même. Alléluia. Donc, il y a cette maturité, le culte de ton corps. Il y a des gens qui s'acceptent, qui ne s'acceptent pas. C'est quoi ça? C'est manque de maturité. Tu t'acceptes pas, ça veut dire que tu remets en question ce que Dieu a créé. C'est comme si tu dis au Seigneur, parlons ensemble, là, ta façon de m'avoir créé, là, ça ne me plaît pas du tout. C'est de l'orgueil pur, mon ami. Le choix est de Dieu parfait. Donc tu es maître de ton corps. Et Dieu veut que tu saisisses ce secret. Amen. Donc, l'appétit, c'est tu as le pouvoir de dire non. L'alcool, tu as le pouvoir de dire non. Le sexe, tu as le pouvoir de dire non. La possessivité, tu as le droit de dire non. C'est une maturité. Mais aussi, ça parle de la... Oh, on l'a effacé. Donc, la patience, la persévérance. Il dit, persévérer, c'est percer, vous verrez. Hein? Percer, vous verrez de l'autre côté. Amen. C'est ça, persévérance. Pour moi, je dis toujours, perce et tu verras. Amen. Dans l'épreuve, persévère dans la foi quand tu es dans l'épreuve. Percer, vous verrez dans la prière. Amen. C'est ça, percer. Non, ne lâchez pas. Vous savez, des fois, il y a des choses que j'ai priées des années et des années et des années et des années. Et des années après, la porte s'ouvre. Oh, je suis surpris. J'ai dit, wouh! Et Seigneur me rappelle en me disant, tu sais, j'ai vu, tu as persévéré. Amen. Dans la prière, la persévérance. Ne l'a jamais lâché. C'est un Dieu, un de mes amis, il voulait à tout prix être... Je me rappelle, on était ensemble dans la voiture et on arrive à une ville. Il dit au Seigneur, tu sais, ma candidature est toujours là. Cette ville, elle me plaît bien, je veux te servir ici. Ma candidature, t'as pas oublié. Il fait ça dans la voiture. Je vous assure, quelques années plus tard, il est devenu le pasteur de cette ville. Une belle église est née. On était ensemble dans la voiture quand il faisait cette prière. La persévérance dans la prière. C'est incroyable comment c'est fantastique. Amen. Mais aussi la piété. La piété, c'est quoi? L'apprentissage à chercher Dieu, l'amour de Dieu. C'est ça l'apprentissage. Voyez-vous, la piété, c'est l'apprentissage à chercher l'amour de Dieu. À chercher Dieu lui-même. Dieu est amour. Donc, c'est un apprentissage. La piété, c'est pas, oh, je sais prier. Non, la piété, c'est une recherche continuelle. Envoie des SMS chaque fois. Bonjour Seigneur. Tu sais, c'est grâce à toi si je respire. Le mot mouvoir et l'être, c'est toi, mon roi. Amen. Cette attitude qui envoie toujours des SMS à son roi, continuellement. Et ça, donc, c'est l'apprentissage de la piété. De la piété. La piété est utile à tout, nous dit 1 Timothée chapitre 4, verset 18. Dieu, tu es celui qui conserve tout dans le domaine de ma vie. Tu sais toutes choses. Pas de sujet tabou. Il n'y a rien que je lui cache. Ça, c'est la piété. Tu es concerné de tout ce que je te parle, de tout ce que je fais. Il faut arroser un peu toute la journée, hein? Tous les jours, un peu de tes jardins. Ça peut être le jardin de tes émotions. Ça peut être le jardin de ton identité, de ta personnalité, de ton caractère, de ton identité. Moi, je parle en langue sur chaque domaine. Je prends ma pensée, je parle en langue sur mes pensées. Une minute, deux minutes. Après, je passe sur le domaine émotionnel. Je prie en langue sur mes émotions. Seigneur, maintenant je prie pour mes émotions et je commence à prier en langue. Parce que je ne sais pas comment gérer mes émotions. Mais le parler en langue m'a été donné. Le baptême du Saint-Esprit, je l'ai reçu justement. Celui qui parle en langue s'édifie. Tu édifies quoi alors? Tu édifies tes identités, ta personnalité, ta conscience, ton subconscient, ton inconscient, ton adoration, ton intuition, ta volonté, ton imagination, tes pensées, ton cœur, ton attitude, tout ton caractère, ton tempérament. Tu commences à prier sur ces domaines. Une minute, tu vas voir, ça passe des minutes et des minutes et des minutes dans la présence de Dieu d'une façon étonnante. Tu peux rester une heure, deux heures à parler en langue. Et c'est à notre portée. Celui qui parle en langue s'édifie. Amen. Donc, C'est ça, la piété. La piété, ce cadeau ne nous a pas été donné pour rien. Après, il continue. Il dit l'amour fraternel. C'est l'amour corporatif. C'est « je vous aime ». L'amour n'est pas une émotion. L'amour est une décision. 1 Corinthiens chapitre 13 ne nous dit pas « Ah, j'ai des émotions, ah, je pleure », ce n'est pas marqué. Hein. L'amour est patient. Ce n'est pas une émotion, c'est une décision. L'amour ne soupçonne pas le mal. C'est un choix, ce n'est pas une décision, ce n'est pas une émotion. L'amour veut que l'autre réussisse. C'est un choix. Donc lisez 1 Corinthiens chapitre 13. Vous allez être étonné que l'amour n'a aucune sensation d'émotion. Ce sont des actes et des choix que je fais fermement. Et je termine par le 9e qui est, c'est quoi? L'amour. Il se termine avec, après l'amour fraternel, il dit l'amour. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu qui se sacrifie. L'amour de Dieu est sacrificiel. Des fois, tu peux sacrifier ton temps. Tu peux sacrifier tes finances. Tu peux sacrifier des choses pour l'amour de ton Dieu. Amen. Et pour l'amour de ton frère. On va prier. Seigneur Jésus, merci pour ce temps que tu nous as donné. Merci pour la maturité qui permet à mes frères et sœurs d'aller loin avec toi. Et vraiment de le mettre en pratique parce que c'est à leur portée. Toi, tu es le Dieu qui facilite les choses et qu'on comprenne les choses simplement pour qu'on aille plus loin avec toi. Merci de créer le vouloir et le faire, l'intelligence nécessaire pour saisir le secret de ta parole qui est simple et à la fois profonde, à la fois puissante, à la fois, Seigneur, incontestable parce que la vérité triomphe dans ta parole. Tu as dit, c'est la vérité qui vous a franchi. Elle vous rend réellement libre. Merci pour cette vérité du secret de ta maturité que tu veux communiquer à mes frères et à mes sœurs et qu'ils ne sortent pas les mains vides. Merci qu'ils le mettent en pratique. Que ça soit pas une prédication parmi d'autres, mais Seigneur, une prédication de la mise en œuvre, la mise en pratique de cette parole que je viens de partager. Pour moi-même, Seigneur, tu me fais les mêmes grâces comme tu le fais pour mes frères et sœurs. Et qu'aucun de nous ne rations ce que tu as préparé pour ce jour, Père. Et que le diable ne vole pas ce que toi, tu as semé aujourd'hui. Satan, tu ne voleras pas la semence de la parole de Dieu dans les cœurs, dans le nom de Jésus-Christ, selon les mesures de foi que tu as instaurées dans les cœurs de mes frères et sœurs, dans le nom de Jésus-Christ qui est Seigneur. Amen. Amen. Soyez bénis. À tout à l'heure. Donc, Esprit, merci de ce que tu glorifies, Jésus. Encore cet après-midi, tu continues à ouvrir notre intelligence, à illuminer les yeux de nos cœurs, pour que nous sachions encore l'espérance qui s'attache à ta parole et à l'espérance qui s'attache à ton appel, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Alors, si on a parlé d'être mûr, d'être mature, il y a une raison que Dieu attende dans cette maturité. C'est comme confier à un enfant une mitraillette en disant, ben, écoutez, soldat, imaginez comment, quelle bêtise il va faire avec. Ou bien c'est confier toutes les finances de la maison pour qu'un enfant de 5 ans gère les finances de la maison. Il va acheter que des bonbons et des gâteaux. Eh bien, on va tout avoir. On va être malade. Mais en fait, souvent, les gens, sans être matures, ils veulent exercer l'autorité. C'est impossible. C'est pour ça qu'on a une très grande défaillance. Quelquefois même, on irrite le monde invisible et les démons peuvent nous agresser, nous attaquer. On se pose la question, pourquoi on est attaqué? Justement parce que la maturité manquait. Mais c'est pour ça que j'ai commencé par le principe de la maturité et pour dire après, ben, après, une fois que tu as compris le principe de la maturité, tu peux exercer l'autorité. Amen. Alors, c'est quoi l'autorité? Vous savez, le mot autorité, c'est un mot légal. Donc, ça vient du mot auteur. L'auteur d'un livre est écouté. Si quelqu'un écrit un livre, et si vous lui posez des questions sur le livre qu'il vient d'écrire, il a de l'autorité dans ce qu'il parle. S'il vous dit non, moi je ne l'ai pas marqué dans ce sens-là, je l'ai marqué comme ça, voilà ce que je voulais dire. Donc le mot autorité vient du mot auteur. L'auteur de ton existence, c'est lui-même. L'auteur de l'existence de la planète Terre, c'est lui. De tout l'univers, c'est lui. C'est lui qui a écrit toutes choses. Vous savez, tout est mathématique. Je dis toujours, la parole est mathématique. Pourquoi je dis ça? Parce qu'elle a des codes. Elle a ce qu'on appelle des principes, des codages, pour ouvrir certaines choses. Voyez-vous? Donc, quand on ne connaît pas les codes pour ouvrir une boîte à lettres, vous pouvez taper 1000 fois, ça ne marche pas. Et souvent, les gens répètent les mêmes codes et ça n'ouvre jamais, mais continue. J'ai dit, mais écoute, au moins cherche pour dire pourquoi ça n'ouvre pas. Donc, souvent, notre autorité ne marche pas parce qu'on tape les mêmes codes et ça ne marche pas. Donc, que Dieu nous aide. Et donc, ce que je vais essayer de partager avec vous, je n'ai pas la prétention de comprendre tout, loin de moi, mais ce que j'ai compris jusqu'à aujourd'hui, je vous partage. Et c'est ça ce que je vais faire avec vous. Donc, l'autorité vient du mot auteur. Le mot en grec, c'est exousia. Pouvoir de décider, de commander, d'imposer ses volontés à autrui. Le pouvoir de donner des ordres ou de prendre des décisions, de diriger ou de contrôler quelqu'un ou quelque chose. C'est ça la définition. Donc je le répète si vous voulez. Pouvoir de décider, de commander, d'imposer ses volontés à autrui, bien sûr. Le pouvoir de donner des ordres ou de prendre des décisions. Voyez-vous, on prend des décisions. De diriger ou de contrôler quelqu'un ou quelque chose. C'est ça, ça veut dire exousia ou autorité. Dans la société, il y a 3 types d'autorité. Qu'on le veuille ou pas, il y a ces 3 types que vous le verrez. Donc, le premier type d'autorité, c'est l'autorité légale, qu'on appelle judiciaire, municipale, des forces de l'ordre, de l'organisme auquel est confié un pouvoir de décision légale. Donc, ça, c'est la première forme ou type d'autorité qui existe. C'est pour ça, souvent, on se soumet, quand on a une lettre qui nous vient du tribunal, même si on n'a pas envie d'aller, on va quand même. Quand on vous dit, tu as dépassé tel kilomètre à telle heure, tu dois payer l'infraction que tu viens de commettre, ben tu payes. Pourquoi que tu le veuilles ou pas? Parce que c'est une autorité qui t'exige. Donc, il y a cette autorité légale. Donc, on se soumet volontairement, même quand on râle, on tape des pieds, on le fait quand même. Sinon, ça va augmenter parce qu'ils vont encore vous ajouter plein de choses. Donc, vite, tu payes le plus tôt possible. Il y a 2e forme d'autorité générée par un charisme. Vous savez, il y a des gens qui ont une éloquence magnifique. Des gens qui ont une compétence. Une compétence peut amener une autorité sur nos vies parce qu'elle connaît mieux que nous. Il y a l'expertise dans la main de cette personne, vous vous soumettez. Donc, elle exerce une autorité. Le savoir exerce une autorité. Une richesse. Les gens riches, même s'ils sont nuls, bêtes, parce qu'ils sont riches, ils exercent une autorité. Que tu le veuilles ou pas. Donc, il y a cette forme d'autorité générée par un charisme, par quelque chose que la personne a et que toi tu n'as pas et que tu, volontairement, tu te soumets à elle, par ses études, par la connaissance qu'elle a. Amen. Donc il y a ça. Il y a une 3e forme d'autorité, l'autorité qu'on appelle traditionnelle. Tu vois, l'autorité. Donc, ce sont des autorités de conviction. Il n'y a rien derrière, mais il y a une autorité de conviction. Comme par exemple, c'est Jésus qui dit dans Marc chapitre 7, verset 8, il dit, vous abandonnez les commandes de Dieu et vous observez la tradition des hommes. C'est étonnant. Donc il y a une tradition souvent qui prend le dessus, qui prend le dessus. Et on se soumet. Depuis notre petite enfance, on nous a dit c'est comme ça. Même sans réflexion, on est sous l'autorité de ces autorités traditionnelles qu'on nous impose. Bonne, moins bonne, des fois injuste et mauvaise. Mais on se soumet quand même. J'ai vu dans des pays, il y a des parents qui imposaient à leur petite fille de se marier à l'âge de 6 ans, à l'âge de 9 ans, c'est dans la tradition, la fille, eh ben, elle accepte, eh ben, les parents acceptent, la famille accepte, et on implique en disant, c'est la tradition, tu ne peux pas y aller loin de cette tradition. Et donc, qu'on le veuille ou pas, on est soumis à cette autorité traditionnelle, qu'on le veuille ou pas. Donc, l'autorité est fréquemment vue comme un défaut. Quand, bien sûr, c'est abusif, ou quand il y a de l'autoritarisme, ou bien quand il y a, qui finit par devenir des dictatures. Vous savez, ces voix, donc ça commence bien souvent, et ça finit par devenir dictateur ou plein d'autoritarisme. Moi, j'ai vu dans la famille des gens qui sont trop autoritarisme. Donc, l'enfant peut être, malgré l'âge qu'il a, il a peur. J'ai connu une personne, une sœur, son père était tellement autoritaire. Il a 92 ans. Il est parti maintenant. La fille avait une telle peur de son père. Jamais le contredisait. Même quand elle voyait les choses justes, jamais ne disait rien parce qu'il exerçait un autoritarisme énorme, presque dictature. Donc des fois, on est prisonnier de cela, on n'est même pas conscient. On dit, ben, il faut respecter les parents. Ben oui, respecter les parents quand c'est juste. Ok ? Honore ton père et ta mère ne veut pas dire deviens marchepied. Honore, par exemple, on le respecte. Le mot honorer, c'est respecter. On ne leur manque pas du respect, mais on n'est pas obligé d'être leur serpillère. Voyez-vous ? Ils ne peuvent pas nous imposer, ils ne peuvent pas se mêler de notre vie de couple. Ça, c'est outrepasser leur autorité. J'ai vu dans des couples des parents qui se mêlaient de l'histoire des enfants et ça crée souvent des séparations à cause d'une mère qui se pose ou d'un père qui se mêle des histoires de famille. Donc c'est de l'autoritarisme, des choses qui peuvent être. Mais alors, c'est quoi l'autorité biblique dans l'Écriture? Qu'est-ce qu'on pense de ça? Il y a une seule façon pour que l'autorité vienne, c'est par une relation intime avec l'autorité suprême. C'est comme ça que ça vient, l'autorité. Il y a une seule façon. Pour que l'autorité divine arrive dans ma vie, il te faut une relation avec l'autorité suprême qu'on appelle le Seigneur. C'est pour ça que le mot Seigneur est très, très intéressant. Dans la Bible, on trouve beaucoup, hein, d'ailleurs, Hachem, ils disent ou bien Adonai, ça veut dire Seigneur, vous savez. Donc, le mot Adonai, et le diable aussi voulait copier ce mot Seigneur, d'où vous trouvez, dans ce Baal, veut dire maître, mari et Seigneur. C'est ça, ça veut dire, Baal. Et de l'autre côté, dans la Bible, vous trouvez un autre mot, qui est le mot Seigneur, qui est Adon, Adonai, Amen, Hachem, Adon, ou Seigneur. Donc, quand les Juifs écoutaient le mot Baal, comme ça veut dire mari, maître et Seigneur, donc ils le mélangeaient avec Adonai, qui n'avait pas les mêmes attitudes ni le même comportement. L'un revendiquait le sang de ses enfants, c'est pour ça Baal demandait la mort de ses enfants. Il veut un sacrifice, il veut du sang qui coule. Tandis que notre Dieu, le Dieu d'Israël, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, notre Dieu, lui ne revendiquait pas le sang des humains, jamais. C'est un Dieu qu'on appelle Adon ou Adonai. Donc les deux se mêlaient, c'est pour ça souvent dans la Bible, Baal jouait un rôle énorme et ça a mis des dégâts dans le peuple d'Israël. Des fois ils ont été déportés à cause de cette erreur. Et d'ailleurs, Baal, qu'est-ce qu'il faisait? Si vous connaissez l'histoire d'Élie, c'est très intéressant, c'était une histoire de pluie. La pluie est toujours manquante en Israël, même maintenant. Chaque fois, celui qui était seigneur, c'est celui qui donnait la pluie de l'arrière-saison, et ainsi de suite. Alors, ils demandaient à Baal de leur donner la pluie. Alors, comme la pluie tombait, ils ont dit, ben, on adopte ce Dieu-là. Qu'est-ce que tu veux? Ben, je veux le sacrifice de ton enfant. Ben, ils sacrifiaient leurs enfants. Et Dieu était irrité avec cette histoire. Au point, malgré qu'ils demandaient l'aide de Baal, donc ce Seigneur, rien ne se passait pour le peuple d'Israël pendant 3 ans, d'où Élie, la Bible nous dit, il avait fermé le ciel pendant 3 ans, 3 ans et demi. Et là, donc, Jézabel et ainsi que Akab étaient en colère, ils cherchaient qui? Élie. C'est incroyable, pourquoi ils le cherchaient? Ça veut dire qu'il avait 1000 prêtres, ils n'arrivaient pas à ouvrir le ciel. Et il était irrité de ce petit prophète qui s'appelle Élie. Donc Élie vient, vous connaissez l'histoire, hein, et donc eux, ils criaient toute la journée, ils leur donnent toute la journée à crier, à pleurer, à demander. Hein, il leur disait, peut-être il est en train d'être avec sa copine, il est en train de faire ceci, et peut-être il est en train de dormir, alors criez encore plus. Alors ils mettaient le sang sur eux, ils se tapaient, tout ça. Vous connaissez toute l'histoire, lisez-le, c'est très intéressant. Et lui, il invoque le vrai Seigneur. Il dit, Adon, toi le Seigneur, le maître du ciel et de la terre. Et les gens essaient de t'imiter. Baal, il a pris ton nom, il a usurpé pour devenir Seigneur. Démontre qui tu es, et vous connaissez l'histoire, le ciel s'ouvre et le feu consume le sacrifice et aussi l'eau, et d'un seul coup, Dieu démontre qu'il est Seigneur. Et donc le mot Seigneur, c'est quelque chose de très, 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 très important. C'est pour ça que Jésus, il est à la fois Seigneur, il est à la fois roi. Pourquoi il est roi? Parce que le Seigneur des seigneurs devient roi. Jésus, quand vous dites Seigneur Jésus, vous avez raison. Parce qu'avant d'être roi, il est Seigneur. Et qu'est-ce que ça veut dire un roi? Un roi veut dire le Seigneur des seigneurs. Ça veut dire les autres seigneurs l'ont reconnu comme leur Seigneur. D'un seul coup, son statut change, il devient roi. C'est pour ça qu'il dit, voici le roi des Juifs, c'est marqué à la croix. Pourquoi? Parce qu'il était le Seigneur des seigneurs. C'est pour ça que vous pouvez appeler Jésus mon Seigneur, comme vous pouvez l'appeler Jésus mon roi. Ça a la même définition pour lui, parce qu'il est Seigneur avant de devenir roi. Il est roi parce qu'il est le Seigneur des seigneurs. Amen. Donc c'est très intéressant de comprendre cette relation avec lui. Alors, donc, qu'est-ce qu'il veut? Car ce mot Seigneur, autorité sur la vie, sur la mort, le pouvoir suprême, c'est ça que ça veut dire. Ah, donc, si l'autorité c'est ça, il y a une chose qui se mélange dans notre tête. Il y a 3 mots qu'on n'arrive pas vraiment à différencier. Il y a le mot pouvoir, il y a le mot autorité que je viens de parler, il y a le mot puissance. Les gens mélangent tout le temps ces 3 mots. Donc des fois, dans la lecture d'ailleurs, quand on lit, il leur a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Puissance. Ce n'est pas l'autorité, le diable n'a pas l'autorité, mais je viendrai tout à l'heure. Donc puissance. Alors, c'est quoi? Donc maintenant, puissance, je vais définir le mot puissance. Le mot puissance en grec, c'est dynamos. C'est quelque chose qui explose. Voilà, le mot dynamite sort de ça. Dynamos, explosif. Amen. Ça sort du mot explosion. Mais l'explosion est dans le naturel. Donc la puissance, toujours, toujours, mettez ça dans votre tête. Vraiment, vous allez comprendre la différence entre autorité et puissance. C'est que la puissance agit toujours dans le naturel. Quand vous voyez une guérison, c'est la puissance du Saint-Esprit qui le guérit. Quand vous voyez un miracle qui se passe dans votre vie, c'est la puissance du Saint-Esprit. D'ailleurs, la puissance vient du Saint-Esprit, l'autorité vient de la relation avec Jésus. C'est 2 choses différentes. Plus ta relation est grande avec Jésus, plus ton autorité est grande. Plus le Saint-Esprit agit à travers toi, il y a l'explosion, il y a une bombe atomique, boum, ça explose, et la maladie fuit d'un seul coup parce que la puissance peut faire quelque chose de différent. Donc, c'est par la puissance du Saint-Esprit et par la puissance de son nom que vous avez été guéri. Dans son nom, il y a quoi? Le souffle de la puissance du nom du Saint-Esprit qui est là, qui fait explosion quand il s'approche de quelque chose. C'est pour ça que quand vous imposez les mains et vous priez pour une personne en disant « Sois guéri !» D'un seul coup, ce mot qui sort, c'est le souffle de Saint-Esprit fait exploser la maladie. Et la maladie lâche la personne. D'un seul coup, il dit « Ah, ah, quelque chose s'est passé !» Et les démons aussi lâchent à ce moment-là. Parce que la puissance est étroitement liée à la puissance du Saint-Esprit. Maintenant, c'est ce qui est très intéressant à la fois, c'est que cette puissance qui agit, vous trouvez, hein, la puissance, je vous ai dit tout à l'heure, c'est un don. Donc, vous n'avez rien fait pour l'avoir. Ce n'est pas votre piété qui a permis pour recevoir un don. C'est pour ça qu'on l'appelle le don du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit distribue à qui il veut, comme il veut, ses dons. Le don de guérison, le don de miracle, le don de connaissance, le don de parole de connaissance, le parole de sagesse, le don de discernement des esprits, le don de foi, le don de parler en langue, le don de diversité de parler en langue. Amen. Donc, d'un seul coup, ce don, c'est donné selon ce que Dieu trouve bon pour son service dans ce monde de la planète Terre. Dans cette colonie, je appelle ça la colonie du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu a envoyé ça pour qu'on colonise par le Seigneur. Amen. La terre, il veut qu'elle soit colonisée par sa parole. Amen, amen. Et que les démons lâchent. Donc, la puissance est là. C'est comme une arme qui a été donnée malgré toi pour que tu sois le colonisateur de la planète Terre. C'est ça, amen, amen. Quelle grâce que Dieu nous a fait en nous donnant la puissance. Alors, le diable, il sait une chose. La puissance, je dis tout à l'heure, est liée au miracle, aux guérisons. L'eau en vin, c'est une puissance. La puissance est explosive, dynamite, c'est à l'extérieur. Toujours l'extérieur, des choses qui se passent à l'extérieur est liée à la puissance. Des miracles, des signes, des prodiges. Dans Actes chapitre 18, vous pouvez le lire. Par contre, l'autorité, c'est expulser, supprimer une affliction, une douleur, les démons, la délivrance, c'est retirer un être spirituel d'une personne sur un domaine de sa vie et de la déplacer ailleurs ou l'expulser et chasser dans le monde invisible. Voyez-vous, l'autorité agit dans le monde invisible. La puissance agit dans le monde visible. Alléluia! Alors, l'autorité, par contre, est supérieure sur la puissance. L'autorité est inimitable. Parce que l'autorité ne peut venir que par une relation. Amen. Vous ne pouvez pas imiter. Ou tu as une relation, tu l'as. Ou tu n'as pas une relation, tu ne l'as pas. Par contre, la puissance, c'est un cadeau. Elle peut être imitée. C'est pour ça que les démons, les anges déchus peuvent imiter les puissances. Et les gens se trompent parce qu'ils voient des guérisons, parce qu'ils voient les paroles de connaissance ou une prophétie. Ils sont là, ils sont éblouis. Il ne faut pas que les dons t'éblouissent. Vérifie si ces dons sont bons. Quelle est la source de ces dons? Donc, connaître et comprendre, c'est très important. Dans Luc chapitre 10, verset 17, il nous dit ceci. Seigneur, Seigneur, les démons même nous sommes soumis en ton nom. Ça veut dire que c'est un monde invisible. Alors, quand il y a autorité, l'autorité se conjugue comme ça. Écoutez bien. L'autorité est étroitement liée à la soumission. Quelqu'un qui exerce l'autorité, il a un cœur soumis. La soumission est une attitude de cœur. Ça ne se voit pas. C'est au fond de toi. Tu sais que ta relation est telle, tu es soumis à ce programme de Dieu. Les gens ne peuvent pas vérifier, parce que les émotions, l'intention intérieure, qui peut le voir? Il n'y a que Dieu qui connaît. C'est pour ça qu'il dit, ah, toi tu vois l'extérieur, mais moi je vois le cœur, dit le Seigneur. Amen, amen. Dieu voit le cœur. Donc, l'attitude est étroitement liée à l'autorité. Par contre, dynamique est quelque chose, tu peux obéir. Voyez-vous, il y a une différence entre obéir et se soumettre. On peut obéir sans se soumettre. Vous le savez, ça? Je peux dire, ma sœur, est-ce que tu peux me nettoyer le parterre? Elle va le faire peut-être en râlant, en disant, pourquoi il me demande à moi? Il y a tout le monde ici. Mais qu'est-ce que c'est? Bon, oui, je vais le faire. Oui, je vais le faire. On peut râler. L'attitude. L'attitude peut râler tout en obéissant. Donc, l'obéissance n'est pas la définition claire pour vivre ce qu'on appelle l'autorité. L'autorité, c'est l'addition de la soumission et de l'obéissance. Quand les deux sont additionnés, tu exerces l'autorité. Amen. Donc, Dieu vérifie deux choses. On ne peut jamais se soumettre sans obéir. Mais on peut obéir sans se soumettre. On ne peut jamais, si quelqu'un dit « je me soumets », automatiquement il obéit. C'est dans son attitude l'histoire. Mais par contre, quelqu'un peut obéir tout en râlant. C'est pour ça que l'autorité n'est pas avec lui. On dit, ah, oh, c'est un gars obéissant. Ah, hein. Oh, ouais, il fait, ah, oh, ouais, il est gentil. Hein. Il le fait, hein, tu parles, peut-être il râle. C'est pas la peine. Il peut tout rater. OK? Donc, maintenant, le diable, quand il a été expulsé du royaume de Dieu, il est parti avec tous les dons et la puissance. Parce que la Bible nous dit, Dieu ne se repent ni de son don, ni de... Exactement. Romains chapitre 11. On peut le sortir? Romains chapitre 11, verset 29. Romains chapitre 11, verset 29. Car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. OK? Ça veut dire une puissance que Dieu t'a donnée. Regarde, la couleur de tes yeux, c'est un cadeau. Tu n'as rien fait pour l'avoir. Il ne va pas le retirer parce que tu es rebelle. S'il le retire, tu ne vois plus rien. Heureusement qu'il ne le retire pas. C'est pour ça que Dieu ne regrette pas ni de son don ni de son appel. Amen, amen. Alors on va lire Romains chapitre 11, verset 29. Je ne sais pas si tu arrives, mais ce n'est pas grave. Car Dieu, nous dit ce passage, ne se repent pas de ses dons et de son appel. Alors il y a des gens qui se gargarisent. Voilà, en effet. Romains 11, voilà. En effet, les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Ça ne change pas. Alors, si vous lisez bien le texte, il nous dit ceci. Je vous ai donné le pouvoir, donc, ou moi je le traduis l'autorité, parce que le mot pouvoir, c'est l'addition de la puissance et de l'autorité ensemble, ça s'appelle pouvoir. Mais le texte exact en grec, c'est l'autorité. Je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance, voyez-vous? Mais pas l'autorité. Parce que quand tu as l'autorité, tu as ce qu'on appelle l'autorisation. Là où il y a une mission, il y a soumission. Un jour, c'était Marie-André qui m'a dit, tu sais, la soumission, c'est vivre sur une mission. Et c'est vrai. La soumission, c'est vivre dans une mission qui nous est donnée. OK? Donc, l'autorité toujours réagit avec une mission. Le diable, quand il s'est révolté, il a quitté la mission. Il n'a pas de mission. Il a inventé ses propres visions, ses propres missions à lui. Donc, personne ne donne de, n'exerce une autorité sur lui. Mais comme il est parti avec la puissance, il peut faire des miracles. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, les miracles sont imitables. Le dynamos, quelque chose qui explose à l'extérieur, est imitable. L'autorité est inimitable. On ne peut pas imiter l'autorité. Parce que l'autorité naît au travers d'une relation. Plus ta relation est forte avec Dieu, plus ton autorité est forte. Amen, amen. Tu as cette autorisation. C'est comme devant la police qui nous fait comme ça. Même s'il soit petit, maigrichon, tout ce que vous voulez, il a le képi et l'habit, l'uniforme, tu t'arrêtes en disant qu'est-ce qu'il a vu, qu'est-ce qu'il a vu. Tu vois même plus, même si c'était ton cousin, tu vois pas ton cousin. Tu vas voir l'uniforme, tu comprends? C'est la même chose. Le principe de l'autorité, c'est l'habillement de le droit d'exercer au nom de quelqu'un. Et d'un seul coup, bonjour madame. Votre permis? J'ai permis, je ne sais plus si j'ai le permis. Pourquoi? Parce qu'il exerce l'autorité, parce qu'il a reçu l'autorisation. Il est de la part de quelqu'un, il exerce cette autorité. Et c'est très intéressant de comprendre ça, et quand c'est en rendant obéissant jusqu'à la mort. Mais lui-même, il a été obéissant. Il a été soumis à son Père. Et donc, dans Philippiens, c'est très intéressant, il dit, Philippiens, on va peut-être lire, dans Philippiens, quand il dit, il n'a pas estimé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, il a été obéissant jusqu'à la mort, donc, et qui a permis que Dieu lui donne tout pouvoir, donc il est devenu Seigneur grâce à cette soumission qu'il a eue pleinement à son Père, qu'il a été obéissant jusqu'à la mort. Donc on va essayer de trouver Philippiens. On va lire chapitre 2, verset 6. Existant en forme de Dieu. Pourtant il est Dieu, hein? Écoutez bien. Existant en forme de Dieu. Donc Philippiens chapitre 2, verset 6, on va commencer. Existant en forme de Dieu. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée. Ah oui, voilà. Lui qui est dans les conditions divines, c'est pas mal, c'est une autre traduction, mais en tout cas c'est la même chose. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains, connu comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort. Même la mort sur la croix. C'est pourquoi, continue, ça c'est très intéressant, il dit, c'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Et il continue encore, s'il te plaît. Afin qu'au nom de Jésus, chacun plie du genou dans le ciel, les anges, sur la terre, les humains et tout ce qui est la nature, et sous la terre, même les puissances des ténèbres. Continue, s'il te plaît. Et que toute langue reconnaisse ou confesse que Jésus-Christ est devenu quoi? Seigneur. Maître de toutes choses. À la gloire du Dieu le Père. Et Dieu le Père a été glorifié à cette compréhension, à cette obéissance totale, à cette soumission qu'il a eue. Alors, si je crois souvent je vous ai posé cette question, mais je repose parce que j'aime bien poser, à qui Jésus se soumettait? Voyez-vous, pourtant, maintes fois, je l'avais fait ici, maintes fois. C'est le diable, comment il est rusé? Voyez-vous, comment il vole? Jésus n'a pas seulement soumis à son Père, il a été soumis à ses parents. Eh bien, oui, hein? Voyez-vous? Plus tard, il a été soumis à qui? Et aux autorités, aux Romains, aux autorités aussi spirituelles de son époque. À Jean-Baptiste. Voyez-vous? Donc, comment veux-tu exercer de l'autorité? Pas comme des gens qui me disent souvent, ils me disent, moi, je me soumets à Dieu. Je lui dis, c'est facile de se soumettre à ce qu'on ne voit pas. Est-ce que tu arrives à te soumettre à un humain? Jésus a donné l'exemple. Lui-même, il s'est soumis à ses parents, le créateur du ciel et de la terre. Mais vous vous rendez compte? Comment il s'est humilié? Jusqu'où il a été humilié? Donc, tenez, on va commencer. par Luc chapitre 2, versets 51-52. Luc chapitre 2, versets 51-52. Luc chapitre 2, versets 51-52. Puis il descendit avec eux, allant à Nazareth. Il leur était. Puis il descendait avec eux pour aller à Nazareth. Il leur était quoi ? Soumis. Attitude de cœur. Le Créateur du ciel et de la terre. Il s'est soumis à ses parents. Parce qu'il était resté à Jérusalem, dans un temple, et ses parents étaient partis, et d'un seul coup, il regarde, il n'était pas là, il dit, oh mince, où est notre fils? Ils sont revenus, ben, il lui gronde même. Eh ben, mais il était soumis, il n'a pas revendiqué quoi que ce soit, le Créateur du ciel et de la terre. C'est un modèle pour nos vies. C'est pour dire, tu veux être soumis à Dieu? Commence par le commencement. On commence par des petites choses comme ça. Soumis à ses parents. Sa mère grandait précisément toutes ces choses dans son cœur. Jésus grandissait en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Amen. Mais encore, plus tard, Luc chapitre 2, verset... Ah oui, à 12 ans, donc ça c'est ce que je viens de faire. On va lire maintenant, deuxième, avec les prêtres. C'est au chapitre 40, au verset, chapitre 2, verset 46. Donc il est allé se soumettre aux prêtres, c'est étonnant. Il pouvait dire, moi je connais tout. Pourquoi j'irai m'asseoir au pied de ces prêtres ? On va le lire. Au bout de 3 jours, il se trouvait dans le temple, assis au milieu des maîtres. Il les écoutait et les interrogeait. Tiens, à des humains ? C'était volontairement qu'il se soumet aux prêtres de l'époque. Tout en sachant que c'était des humains imparfaits, incompétents. Il s'est soumis. Quel Dieu qu'on a. Il est extraordinaire. Encore, on va voir. Matthieu chapitre 3, versets 13 à 16. Matthieu chapitre 3. Matthieu chapitre 3, versets 13 à 16. Alors Jésus vint de Galilée jusqu'au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens vers moi. » Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès qu'il fut baptisé, Jésus sortit de l'eau, alors le ciel s'ouvrit. Ça veut dire, Jésus, il a été auprès de prêtres, il s'est soumis aux prêtres, il s'est soumis à ses parents. Plus tard, il se soumet à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il a vu que le Saint-Esprit venait se poser sur lui. Il a dit, mais c'est pas un humain, ça. C'est autre chose. C'est lui. Il voyait Dieu. Il lui dit, non, c'est pas à moi de te baptiser. C'est toi, Seigneur, qui devais. Il lui dit, non, si je fais pas ça, je ne peux pas ouvrir le secret de l'obéissance, le secret de l'autorité. D'un seul coup, dès qu'il s'est soumis à Jean-Baptiste, qu'est-ce qui s'est passé? Une voix est venue du ciel. Voici mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Amen. Écoutez-le. Ah, c'est très intéressant. Dès qu'il fut baptisé, Jésus sortit de l'eau. Alors le ciel s'ouvrit pour lui et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Alors Jésus vint à la Galilée jusqu'au Jourdain vers Jean pour être baptisé. Qu'est-ce que tu as ajouté? Non, je suis... Au même instant, une voix fit entendre du ciel ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé qui a toute mon approbation, tout mon amour. Amen. Écoutez-le. Donc tout le secret est venu parce qu'il s'est soumis dans tous les niveaux. Un jour, voyez-vous la Bible? Elle nous donne des garde-fous pour qu'on se perde pas, pour qu'on se fasse pas avoir. C'est pas parce qu'il y a un don qu'on doit être ébloui. Vérifiez toujours. Un jour, un garçon est venu dans ma voiture, qui exerçait un peu la prophétie, vous savez, des paroles prophétiques. Oh, Seigneur, le Seigneur te dit ceci, le Seigneur. Oh, les gens étaient, oh, il m'a donné une parole, oh là là, ils étaient contents. Et là, il rentre dans ma voiture, mais il ne me connaît pas. Donc, je rentre, mais moi, je sais comment ça fonctionne, le Saint-Esprit, par la grâce de Dieu. Je sais comment, si ça vient de Dieu ou ça vient pas de Dieu, je le comprends, parce que Dieu m'a enseigné ça. Alors, il rentre, il me dit, j'ai une parole pour toi. Je dis, vas-y, je lui fais. Il me dit, Dieu te dit ça. Ce qu'il disait n'était pas faux. Parce que le diable connaît le passé. Hein. Il peut même entendre ce qu'un autre m'a donné comme prophétie. Hein. Il peut juste imiter. Hein. C'est pour ça, cette femme qui suivait Paul, qu'est-ce qu'elle disait ? Ah, ce sont les serviteurs de Dieu ! Écoutez-les ! C'était un esprit de Python, c'était un démon qui ne faisait que répéter ce qu'il a entendu. Le diable connaît le passé, mais il ne connaît pas le futur. Par contre, dès que tu lui fais confiance, il peut créer ton futur. Parce que tout réside dans la foi. À qui tu fais confiance, ta vie est déterminée. C'est pourquoi on écoute le passé. Oh, il a découvert des choses. Mon Dieu, il a su que j'ai une tâche là. Tiens, mais celui-là, il est parfait. Ah ben, ça vient de Dieu. On appelle toutes nos copines en lui disant, allô, va voir celui-là, hein, mazette. Je te dis, hein, il donne les paroles avec mes précisions. Tu sais pas, le diable connaît ton passé. Vérifie toujours. Alors, il me donne une parole et tout ça. Il me dit, voilà, qu'est-ce que tu penses ? Il me dit. Je lui dis, je ne le reçois pas. Oh, il était surpris. Si je ne conduisais pas, je suis sûr qu'il allait descendre de la voiture. Mais comme je faisais 90 à l'heure, il n'a pas osé de descendre et il me dit, pourquoi ? Explique-moi. Je lui dis, écoute, tu ne te soumets à personne. Je lui dis, à qui tu te soumets, toi ? Oh, moi, c'est au Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui me donne. Je lui dis très bien. Alors, à qui Jésus se soumettait, je lui dis. Si c'est mon modèle, je dois suivre le modèle. Amen, suivre le modèle. Je lui dis, mais à qui Jésus se soumet? Ah, il me dit, oh, à son père. J'ai dit, pas tout à fait, je lui dis. Oui, mais il y avait des conditions avant qu'il se soumette à son père. La première condition, il s'est soumis à ses parents. Deuxième condition, au prêtre. Troisième condition, à Jean-Baptiste. Quatrième condition, même aux Romains. Pourquoi ? Il a donné l'offrande, ce qu'on appelle les taxes, même aux Romains qui étaient ennemis du peuple. Jusqu'où il va ? Je lui dis, c'est après quoi que Dieu a parlé ? C'est Dieu parle au moment où tu accomplis la soumission dans toutes les dimensions. Ce n'est pas parce qu'ils sont meilleurs qu'ils s'est soumis. Ce n'est pas parce qu'ils étaient supérieurs qu'il s'est soumis. Il s'est soumis parce que celui qui m'aime, Jésus dit, garde. Voyez-vous, celui qui m'aime, il n'a pas dit, il aura des émotions. Il a dit, celui qui m'aime, garde mes commandements. Les met en pratique. Il ne bronche pas. Et si Dieu dit, pardonnez, je pardonne. Si Dieu me dit, honore, ben j'honore. Même si à mes yeux, la personne n'est pas digne d'être honorée. Alléluia. Donc, si on a cette attitude, d'un seul coup, il dit, ben, il me plaît celui-là, elle me plaît celle-là, je peux lui confier mon arme le plus puissante, tiens, la bombe atomique qui s'appelle le nom de Jésus. Quand tu vas prononcer, les cieux des cieux vont bouger. Quand tu vas dire Jésus, un autre peut dire Jésus, ça ne veut rien dire, un autre va dire Jésus, le ciel est ouvert. La personne, elle impose les mains au nom de Jésus, des guérisons se passent. Vous êtes surpris, on dit, waouh! Parce que sa relation est différente. Amen. L'autorité réside dans les relations. La maturité t'amène à cette relation et cette relation t'amène à l'autorité. Amen. Et quand tu grandis dans l'autorité, ça veut dire que tu as grandi dans la relation avec ton Dieu. Donc, c'est la vérification. C'est toujours ce que tu écoutes et tu obéis. Il y avait une église qui s'appelait « Écoute et obéis ». Je ne sais pas si je vous ai raconté l'histoire de cette église. Dans cette église « Écoute et obéis », il y avait un pasteur. Le Seigneur lui dit « Aujourd'hui, je veux que tu m'ouvres une station de radio ». C'était à l'époque, c'était dans les années 70. Il lui dit « Tu vas m'ouvrir une station de télévision ». Oh, il était content. Il dit, Seigneur, mais on n'a pas de sous. On n'a rien. Comment je peux avoir un tulé? Je t'ai dit, tu le fais. Oui, patron. Alors, il cherche les meilleures boîtes de télévision. Vous savez, d'abord, il a entendu. Voyez-vous, c'est ça. Donc, la meilleure boîte de télévision, il lui montre tout, lui il ne comprend rien, il était parti avec son un de ses anciens et un diacre, je crois, ils étaient à trois, ils étaient allés, on leur montrait, tous les ingénieurs leur montraient, les gens, oui, il me dit, oh, oui. Alors, il me dit, qu'est-ce qu'on fait? Ben écoutez, vous dites, est-ce que vous êtes d'accord? Il lui dit, est-ce que c'est le meilleur? Il lui dit, c'est le meilleur au monde. Parfait. Ben, alors, écrivez à notre patron et on vous répondra. Donc la semaine prochaine, ils se donnent un autre rendez-vous. La semaine d'après, ils arrivent. Alors voilà. Alors il lui dit, alors, votre patron est d'accord? Il lui dit, oui, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'on peut l'appeler là tout de suite? Il dit, à l'époque, c'était des fax. Il dit, vous pouvez lui faire fax là maintenant pour qu'il signe et qu'on ait l'accord et qu'on puisse travailler avec vous. Il lui dit, il se lève, il dit, j'ai pas besoin de fax. Je vais l'appeler tout de suite devant vous. Oh, imaginez ces gens qui ont pris l'avion, qui ont amené tous les outils et tout ça, quelqu'un qui leur dit, je vais l'appeler tout de suite devant vous, il va vous répondre. Imaginez la déception qu'il y a eu, la colère qu'il y a eu dans la boîte. Il se lève, il dit, maître, ce que tu m'as dit, je l'ai fait. Que dois-je faire maintenant? Il lui dit, dis-lui, telle boîte dans tel pays, il lui vole 10 millions de dollars. Dis-lui, tel endroit, le directeur, il détourne tant de millions. Alors il lui dit, voilà ce qui me dit mon maître. Dans tel endroit, tel directeur te vole, il lui dit. C'est ton 10 millions de dollars. Le gars, il dit, attends, écrivez-moi tout de suite. Si ça s'avère vrai, je vous donne gratuitement toute notre station de télévision, pendant 2 ans ou quelque chose comme ça. Cet homme, son église s'appelait « Écoute et obéis ». Amen, amen. Donc, le gars vérifie. Ses directeurs, justement, ils détournaient des fonds. Des 10 millions de dollars, exactement comme cet homme l'avait dit, a été détourné. Et d'un seul coup, le gars est venu, il a dit « Comme promis, je vous donne les 2 ans de télévision gratuite avec les ingénieurs qu'il faut et toutes les choses à faire. » C'est quoi? Ta relation avec Dieu. Ta relation. L'autorité est liée à la relation que tu as avec ton Dieu. Plus ta relation est forte, plus l'autorité est forte. Amen, amen. Donc, Dieu agit comme ça. Même les secrets cachés ne sont pas cachés à ses yeux. Que son nom soit béni. Alors, juste, je vous fais grâce, parce que c'est sur l'autorité, je peux enseigner encore 2 heures, c'est pas la peine, mais déjà, si vous avez compris comment ça fonctionne, l'autorité est liée à quoi? La puissance est liée à quoi? C'est un don. C'est pour ça, l'autorité est supérieure sur la puissance. Amen. C'est pour ça que Dieu nous a donné l'autorité d'expulser les démons, c'est le monde invisible, mais l'autorité aussi agit dans le dynamos. C'est pour ça, c'est par l'autorité de son nom que cet homme a été guéri. Ça veut dire que l'autorité agit dans le monde visible comme dans le monde invisible. C'est magnifique ça. Tandis que la puissance est liée qu'à le monde visible, dynamos. Donc, quand ta relation est forte, l'autorité agit dans le monde invisible, tu peux expulser. D'ailleurs, chaque fois Jésus faisait ceci, vous imposerez le malade et les malades seront guéris. Dans le Marc encore, il dit, vous chasserez les démons. Regardez bien, c'est Marc chapitre 16. D'abord, il dit, vous chasserez les démons, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est pas le contraire. Tu n'imposes pas les mains aux malades et tu ne chasses pas les démons. Tu chasses les démons d'abord. Tu attaques le monde invisible par l'autorité que tu as, par la relation, le niveau de relation que tu as, expulse dans le monde invisible. Une fois que tu as expulsé, Tu agis maintenant dans le monde visible, le dynamos. Tu ordonnes que la guérison se met, que des pièces de rechange viennent et que la personne reçoit sa guérison. Amen. Maintenant, il y a une autre dimension, ce qu'on appelle la foi. La foi de moi peut amener quelque chose, mais la foi de l'autre personne, quand c'est conjugué, quelque chose se passe. C'est pour ça, des fois, la foi d'un pasteur suffit ou de quelqu'un qui prie suffit, la personne est guérie. On est surpris. La personne, elle ne demandait rien, elle est guérie. Des fois, Dieu demande la personne pour qui on prie qu'elle mette sa foi et l'addition des deux fois, ça fait une explosion. Et la personne est guérie. Donc Dieu il agit comme il l'entend, comme il le veut. Alléluia. On peut se lever. Donc c'est à notre portée. J'ai fait exprès de le couper, voilà, j'ai fait un petit résumé, et c'est suffisant, largement suffisant, mais le mettre en pratique. Et ça marche, votre relation. Et la relation est développée par le jeûne. Vous savez, la dernière fois, je vous ai parlé du jeûne. Apprenez à prendre du temps dans le jeûne avec Dieu, dans la recherche de cette relation avec lui. Le jeûne n'est pas obligatoirement manquer seulement la nourriture, mais vous pouvez faire le jeûne de Daniel. Prendre quelque chose qui est léger, qui nous permet quand même une démonstration de mon humilité devant lui, que je m'attende à lui. C'est pour ça, le jeûne, la signification, je vous ai dit la dernière fois, c'est montrer à Dieu que je m'humilie, que je dépends de lui, que j'ai éperdument besoin de lui et que sans lui, je ne peux rien. Amen. C'est à notre portée. On va fermer nos yeux et on va prier. Donc, on va déjà lui dire qu'on veut renouveler notre relation avec lui, beaucoup plus profondément, pour exercer l'autorité. Seigneur, que ma relation avec toi grandisse. Que ma relation avec toi grandisse. Seigneur, merci Seigneur Jésus, de ce que tu aides à mes frères et à mes sœurs, qui grandissent dans cette autorité, mais avant de grandir, tu veux les maturer. Plus leur maturité pousse, plus, Seigneur, ton autorité se met en place. Je te remercie, Seigneur, qu'ils grandissent en maturité, en stature, en comportement, en attitude. Que leur attitude vraiment soit la réponse dans leur vie, dans leur comportement qui montre leur maturité. Qu'ils ne boudent pas pour des choses éphémères, passagères, inutiles, d'ici-bas. Je te prie, Jésus, cette maturité qui leur permet d'être ferme, de ne pas tenir compte, de dire, c'est un mortel, je le bénis. Seigneur, il a besoin de le salut comme moi, au lieu de le bouder, au lieu de le fuir, au lieu de dire, moi, j'ai plus besoin de lui, je veux pas d'elle ou de lui. Seigneur, merci de ce que tu donnes vraiment vraiment la maturité à ton peuple, la maturité à tes bien-aimés, qu'ils grandissent en maturité, en stature, en comportement, en attitude, et que tout leur comportement soit que les gens disent, oh, moi c'est un gars que je peux imiter. Comme disait Paul, soyez mes imitateurs comme je suis imitateur de Christ, disait-il, parce qu'il y avait une telle maturité, on pouvait imiter ce garçon et que les gens pouvaient vivre ce que Paul a vécu. Seigneur, merci pour ce que tu nous fais ensemble. Seigneur, je te remercie pour la maturité que tu me donnes à moi, que tu continues aussi à me faire grandir dans la maturité et que tu continues à faire grandir mes frères et sœurs dans la maturité. Chacun d'entre nous, Seigneur, je prêche, mais moi aussi j'ai besoin, comme eux, cette maturité. Merci, Jésus, de nous faire grandir en maturité pour exercer l'autorité. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu de ce que, Seigneur, une démonstration de te ressembler en maturité dans nos comportements. Le premier signe qui est aime ton prochain. Aime celui qui n'est pas aimable. Aime celui qui te semble même pas aimable. Que ça soit le premier pas pour toi. Je te bénis. Je bénis mes frères et sœurs. Que rien ne manque. Et qu'ils rentrent dans la dimension de l'autorité tout en vivant la soumission à ta parole. Béni sois-tu, Seigneur, pour cette maturité que tu inscris. Et je maudis tout ce qui s'oppose à cela, tout ce qui veut voler le projet de Dieu, qui veut voler la maturité dans leur vie, tout ce qui veut toujours les infantiliser, Seigneur, soit ôté de leur vie. Je maudis les œuvres démoniaques et sataniques, de tout le projet démoniaque qui est en colère pour qu'ils ne rentrent pas dans la soumission et tous les mensonges qu'il peut leur dire, qui peut les culpabiliser. Seigneur, tu es fidèle et juste. Si tu as dit 7 fois, 70 fois que tu pardonnais aux humains, humain, à combien plus forte raison, dès qu'on reconnaît, tu nous pardonnes, tu nous laves, on peut tout recommencer à zéro avec toi, à rentrer dans une dimension nouvelle et grandir dans la maturité. J'efface la culpabilité maintenant, l'accusation du diable maintenant, parce qu'il n'y a pas d'espace-temps en toi. À un clin d'œil, tu peux changer les choses, tu peux amener une maturité étonnante. Merci de bénir mes frères et sœurs, et qu'ils ne partent aucun d'eux les mains vides, et qu'ils vivent des choses profondes, et qu'ils le mettent en pratique. Père, dans le nom de Jésus, et je te remercie de ce que tu le fais. Amen. Amen. Je le crois et je le reçois. Amen. Amen. On peut le dire, je le crois et je le reçois. Amen. Soyez bénis, merci pour ce temps qu'on a eu ensemble.